tout de suite sur France Culture du lundi au jeudi, c'est déjà presque une habitude, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes et le documentaire devient feuilleton. Cette semaine, osez prendre la parole. Au départ de cette série, il y a un silence, une hésitation et peut-être l'envie de hausser le ton, parce qu'au fond, ce que l'on veut, c'est se faire entendre. Que l'on soit obligé de parler en public, que l'on cherche à se faire élire, que l'on ait été une victime ou que l'on soit en pleine réunion. Alors, avocats, professeurs, chefs de projet, thésards ou militants, bègues, bafouilleurs, timides, mais aussi tous ceux qui ont la gorge nouée, la bouche cousue, qui sont lestés d'un secret trop lourd ou d'une histoire inaudible, ces émissions sont pour vous, puisque prendre la parole, c'est aussi un peu reprendre la main. Pour commencer, les personnages. De futurs enseignants qui se demandent s'ils tiendront leur classe, des formateurs qui ont de la bouteille, des hommes de loi pour qui l'éloquence est un plaisir, et des avocats en herbe qui ont déjà un peu chaud à l'idée de revêtir la robe et d'entrer en scène. Ensuite, le décor. Des salles de classe, des amphithéâtres où on a le trac, des prétoires qui vibrent au son des plaidoiries, des salles d'audience pleines de cris et d'effets de manche et des couloirs qui sont un peu comme des coulisses. Aujourd'hui, premier épisode de la série, c'est un documentaire de Céline Leclerc, réalisé par Anna Schmuck. On est en France, à Paris ou en province, et on se dit que bientôt, il faudra sauter le pas et se mettre à parler. Alors on a le trac, ben oui.
Premier tour. Les sujets ont été donnés 15 jours à l'avance, au Palais de Justice de Paris, dans l'immense bibliothèque des avocats, dans l'ordre du tirage au sort, les candidats prennent la parole debout devant un pupitre. Les 12 secrétaires et le bâtonnier les écoutent assis devant une longue table. L'atmosphère est très solennelle.
Eh bien, je déclare ouverte la dernière séance du premier tour de la conférence de cette année, si je puis parler d'une année, avec le regret d'ailleurs qui s'y attache. Premier sujet, faut-il répondre à ceux qui parlent pour ne rien dire? Je vois que le premier orateur de l'affirmative est Monsieur Stéphane Guerlain. Vous avez la parole, monsieur.
Moi, je m'appelle François Bourguignon, donc j'ai fait une école de commerce et ensuite seulement j'ai fait du droit, donc à 23-24 ans. Ce qui fait que j'ai pris un peu mon temps, mais aujourd'hui, voilà, c'est la bonne direction que je pense avoir choisie, et je rentre dans la vie active pour de bon à partir de vendredi prochain. J'ai pas immédiatement pris conscience qu'il fallait plaider, ou en tout cas que ça allait venir si vite. Et avant d'être accepté à l'école du barreau, il y a toujours une période entre les écrits, les oraux, avant d'avoir les résultats finaux. Et durant cette période, je suis allé me promener au Conseil de Prud'homme de Paris, donc c'est la juridiction où on plaide et où on juge les affaires relatives au droit social, au droit du travail. Et je me suis assis dans la salle, et là j'ai vu d'abord l'avocat d'un salarié prendre la parole, et puis je me disais en l'écoutant, c'est incroyable ce salarié, il est vraiment innocent, c'est tout blanc, son employeur est vraiment un méchant, et puis... La parole passe de l'autre côté à l'avocat de l'employeur, et puis là je me dis c'est incroyable. Il a raison aussi, c'est incroyable. Je sais pas maintenant, je sais plus qui a raison, qui a tort. Et c'est là que j'ai compris l'importance de la plaidoirie. En les écoutant, je pouvais pas les départager. Et à ce moment-là, je me suis dit que j'étais pas au point et qu'il faudrait travailler. Qu'on nous avait appris pendant toute notre scolarité à écrire, à rédiger, à construire des plans. Par contre, à l'oral, là c'était beaucoup plus lacunaire.
Je m'appelle Gaspard, CPED, j'ai 25 ans, et voilà, cette année j'ai décidé que j'avais envie de devenir prof, et donc je me suis inscrit à la prépa, et je passe le concours du CAPES et de la GREC. J'ai un pote qui m'a toujours dit « Gaspard, sois jamais prof », mais bon, il y a un moment où je me suis rendu compte que ça, c'était ça qui me plaisait, quoi, et que ça remplissait énormément de critères, qu'il n'y a pas des milliers de boulots où on peut apprendre tout le temps, être en contact avec des gens... Et à enseigner, et voilà, et avoir un peu de temps pour soi aussi. Je suis assez impatient de pouvoir donner cours à un moment.
Je m'appelle Frédéric Hartel, j'ai 25 ans, alors j'ai à peu près fait le même parcours que mon ami François. Donc j'ai fait l'école de commerce, en même temps j'ai fait le droit. Et en même temps, j'ai fait l'école du barreau. En tous les cas, ce qu'on appelle PPI. C'est 6 mois où on fait un peu ce qu'on veut. Et de fil en aiguille, j'ai fait un stage chez l'avocate au Havre. Elle a plaidé beaucoup en affaires familiales, au tribunal correctionnel. Donc j'ai pu voir des plaidoiries, j'ai pu voir comment ça se passait. Mais assez étrangement, je ne suis pas du tout projetée. Je me suis dit, c'est super, elle plaide très bien, mais je ne ferai jamais ça.
Je vais avoir 23 ans en juillet.
Maëva Barthès.
Alors, à la base, je ne me destinais pas à ce métier. Donc, j'ai fait deux années d'administration économique et sociale. Et pendant ces années de fac, j'ai effectué un stage en ressources humaines qui ne m'a absolument pas plu et qui m'a assez traumatisée du métier. Et je me suis dit, mais je ne me vois pas faire quelque chose de ma vie qui me contraigne tous les jours et un métier dans lequel je ne m'épanouirais pas. Et je me suis dit, comment choisir un métier qui me donnerait envie de me lever chaque matin et qui donnerait du sens à ma vie. Et je me suis dit, ben voilà, je suis dans une voie économique et sociale de toute façon. J'aime le contact avec les élèves, j'aime transmettre des choses, partager des relations avec les élèves. Donc, ben, partons.
Frédéric, François, Maëva et Gaspard ont à peine 25 ans. Ils sont arrivés au terme de leurs études et en septembre seront pour la première fois avocats ou enseignants titulaires. Devant un conseil de prud'homme ou face à une classe de lycéens, prendre la parole sera pour chacun d'eux une activité quotidienne ou presque et centrale dans l'exercice de leurs fonctions. Mais quelques mois avant de se confronter à cet exercice, quelles représentations en ont-ils ? Par quels moyens se sont-ils préparés à l'épreuve du feu de la première plaidoirie, du premier cours ? Savent-ils déjà quels seront leurs premiers mots ? Comment les institutions qui les ont formés ont-elles intégré cette dimension de l'éloquence à leur cursus ? Entre impatience d'être enfin sur la scène qu'ils ont choisie et cauchemar de trous noirs, aisance réelle ou fantasmée et angoisse, complexe, inhibition, cet épisode suit leur premier pas sur le chemin qui les mènera à conjurer leur trac et à inventer l'éloquence qui leur ressemble.
Quand on rentre dans un amphi, je vous assure que moi, ça fait des années que je fais cours maintenant, eh bien, il y a toujours un petit moment de trouble.
Jean-Michel Vivès.
Année après année, c'est-à-dire que bon,
psychanalyste.
Cette espèce de trac ne disparaît jamais totalement. Et c'est saisissant parce que nous sommes confrontés en psycho à des amphis extrêmement chargés, donc 400 étudiants, enfin voilà. Et donc, vous imaginez 400 paires d'yeux comme ça qui sont tournés et tout d'un coup, il faut se mettre à parler et faire en sorte que ces regards qui sont potentiellement maléfiques, puisque le regard est toujours maléfique, hein. Vous savez, dans la mythologie ou dans les récits populaires, le regard est toujours associé à une dimension maléfique. On parle de mauvais œil. On ne parle pas de bon œil, hein, mais on parle de mauvais œil. Et puis dans la mythologie grecque, pensez à Actéon, pensez à Orphée, pensez... Enfin, voilà, y a toujours comme ça quelque chose qui est lié à une dimension maléfique du regard, alors que la voix est plus ambivalente. Elle a une dimension maléfique, on pense aux sirènes, mais elle a aussi une dimension bénéfique. On pense bien sûr à tout ce qui est rituel, de soins, par la parole, chez les chamans, etc., etc. Et donc, par la parole, l'enseignant va devoir faire plier le regard. Voyez, il y a une espèce de combat entre cette parole qui va s'élever d'un seul face à ces 400 paires d'yeux qui, à ce moment-là, vont devoir être pacifiés par cette parole. Mais imaginez que ça ne fonctionne pas, et tout d'un coup, c'est l'enfer.
Quand je donnais des cours en amphi, je me souviens que la façon dont je représentais cette prise de parole, c'était très souvent comme une sorte de fil ou de corde.
Amina Metouchi, linguiste.
Que je lançais, que certains étudiants attrapaient par leur regard, et à travers ces fils ou ces tuyaux même en quelque sorte, passait ce que je souhaitais transmettre. Et puis je pense qu'il y a quelque chose de la mise en danger de soi à chaque fois. C'est pour ça que c'est vraiment difficile, hein, d'enseigner, à moins d'avoir effectivement peut-être un dispositif qui est complètement clos et qui repose sur une forme de théâtralisation de la performance. Mais autrement, c'est toujours une mise à nu, en quelque sorte, hein, et une rencontre qui se fait à chaque fois et qui parfois se rate et parfois se réussit. Et ça dépend du moment, ça dépend du jour, ça dépend de l'état de chacun.
Est-ce qu'il faut beaucoup d'énergie pour y aller ?
Il faut énormément d'énergie. Moi, je me souviens avoir donné les premiers cours. J'étais encore en thèse et j'étais à l'époque à l'université de Nantes en anglais. J'étais enceinte de mon premier enfant et j'avais des cours de 600 étudiants, des amphis de 600. Alors franchement, en fait, je pleurais dans ma voiture avant d'y aller. Ma formule liminaire, c'était de pleurer dans ma voiture. Et après, j'y allais puisqu'il fallait y aller. Enfin, c'était terrifiant, vraiment terrifiant.
Je suis absolument convaincu qu'une personne qui est de tempérament timide, par exemple, peut parfaitement devenir un excellent avocat.
Hubert Ribeiro-Gaillon, avocat.
On est en robe, donc déjà, on est différent qu'un simple citoyen. Et on a un rôle particulier dans un procès. On intervient à un moment précis pour dire un certain nombre de choses précises, et en général d'ailleurs préparées à l'avance. Ce qu'il faut aimer, c'est d'amener les gens à soi, à sa cause, quoi, en fait. Pas capter la lumière, mais capter l'attention et faire passer un message. Donc, tant que le message n'est pas passé, on va y retourner sous une forme ou sous une autre, et puis on martèle et on fait passer un message.
En fait, d'une manière fluide parce que quand je pense, c'est très clair. Arrête de finir toutes mes farces, je le fais toute peule.
C'est maintenant que je commence à réaliser que je vais beaucoup plaider, puisqu'on est dans une équipe où on fait beaucoup de contentieux et où on plaide énormément. Et là, je commence un peu à réaliser que je vais moi aussi devoir plaider. Et c'est un peu une angoisse, du coup. J'ai entendu dire qu'il y avait une petite technique qui était partagée par certains avocats du barreau, certains avocats, qui, parfois, avant d'aller plaider, pour se détendre un peu, buvaient un petit verre de rouge au bar en face du palais. Et ça les aidait à vraiment déstresser. Parfois, c'est des avocats qui ont 30 ans de bar ou 40 ans de bar, mais qui sont toujours aussi stressés et qui ont toujours besoin de leur petit verre de rouge avant d'aller plaider.
Chacun sa méthode, vous voyez.
Alors Frédéric, est-ce que vous allez vous entraîner devant la glace ?
Je m'entraîne surtout devant mes amis. Je m'amuse à leur répéter des plaidoiries ou ce genre de choses, mais on plaide sur des choses totalement... des cas fictifs ou des choses qui n'ont rien à voir. Mais au moins, ça aide à s'entraîner un petit peu. Mais en tous les cas, l'entraînement devant la glace, je ne l'ai pas encore fait. Peut-être que je le ferai avant ma première plaidoirie, je l'ignore. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Enfin, je préfère rester naturelle et pas trop préparer une plaidoirie. Parce que je pense que si on prépare trop une plaidoirie, on est plus spontané. Et l'honnêteté, parce qu'il faut aussi... que les conseillers croient en ce qu'on dit, peut-être que l'honnêteté sera affaiblie si on n'est plus spontané. Je ne sais pas ce que tu en penses, François, mais...
Bah, l'entraînement devant la glace, c'est pas si terrible en fait. Parce qu'il manque. Non, mais il manque. Je pense qu'il manque une chose, c'est le d'entendre sa voix. Alors que quand on se filme à la caméra et qu'on s'écoute, c'est juste horrible d'entendre sa voix pour la première fois. On a l'impression que c'est pas nous, on a l'impression que c'est surjoué ou je sais pas
et
quoi.
En fait, à part se parler à soi-même dans le miroir, mais c'est pas pareil, quoi. Et moi, c'est vrai, c'est très rigolo, c'est que je trouve que quand on parle entre nous, j'arrive à expliquer facilement. Quand on travaille, par exemple, je travaille avec Léon, j'arrive à expliquer facilement les choses. Et au tableau, ça change tout.
Ouais, c'est pas la même chose.
Et je me sens. Ouais, et après, je me sens pas forcément stressée.
Juin 2016. À l'université de Nanterre.
Je pense peut-être le brouillon. J'essaie de faire des techniques, là, celle que j'ai donnée à Gaspard, de mettre un mot sur le côté, mettre les mots de liaison entre deux phrases. Ça, j'avais essayé, ça devait améliorer.
Journée de préparation aux oraux du CAPES de sciences économiques et sociales.
Après, c'est une histoire. Moi, je pense que peut-être que Gaspard, c'est une histoire de brouillon. Moi, c'est une histoire de confiance. C'est à un moment donné, je pense qu'il faut que je sorte ma phrase jusqu'au bout et que je me dise que je la sais, et voilà.
Enfin, moi, je pense que la difficulté, c'est en effet, c'est rendre compte de phénomènes qui sont complexes de manière simple. Parce que là, demain, on va être face à des élèves. Et parfois, il y a des problèmes qui sont où il y a tellement de données en même temps que même parfois, on peut s'embrouiller l'esprit. Et à un moment, pour rendre quelque chose de clair, vaut mieux être sur des trucs simples, quoi.
Et on a fait une révision avec Madame Radecker que j'ai trouvé très bien. Là, c'était spécialement sur la microéconomie. Mais c'était, elle nous donnait des étapes. 1, tu dis ça, 2, tu dis ça, 3, tu dis ça. Et ça, je crois que c'est vrai que sur des choses comme ça, ça aide. Et je vois que Maëva, elle a fait. On posait une question, qu'est-ce que le coefficient de génie? Pouvez-vous me représenter un coefficient de génie? Ben, avant de le représenter, elle a dit, alors ça sert à ça, on le mesure comme ça, et faire des étapes comme ça. Je pense que ça aide à structurer la pensée et du coup, à être plus fluide quand on s'exprime. Mais.
Bonjour.
Bonjour. Le sujet que je vais vous présenter s'intitule Conflit et cohésion sociale. Durkheim, dans De la division du travail social, écrit en 1893, explique que les sociétés européennes sont passées de sociétés de type mécanique, avec une solidarité de type mécanique, à des sociétés de type organique, c'est-à-dire des sociétés caractérisées par une division intense du travail entre les différents membres de la société, et que ces sociétés de plus en plus individualistes entraînent une nouvelle
tu
forme de régulation des conflits.
Et tu nous le montres. C'est-à-dire que tu peux être hésitant sur certaines choses que tu affirmes, mais ne nous le montre pas.
Dans les sociétés traditionnelles,
il faut absolument que tu apprennes à cacher ce qui se lit sur ton visage. Donc cacher l'incertitude, cacher l'instabilité vis-à-vis de quelque chose. Le problème, Talia et Gaspard, c'est que vous ne cachez pas votre incompétence ou vos lacunes ou votre insatisfaction. Quand on est exigeant, on est insatisfait. Vous serez en permanence insatisfait. Des cours mauvais, on peut en faire, mais on les tient. Ce qu'on va aller regarder, c'est pas si vous êtes expert dans la question. On va aller regarder si vous êtes capable de tenir un plan 30 minutes sur un sujet que vous maîtrisez plus ou moins bien. Et donc, c'est vous qui plantez vous-même votre oral lorsque vous êtes incertain dans votre attitude. Donc, apprenez à dire des bêtises.
Avec assurance.
Avec assurance.
Je crois que
Olivier de Bouzy, avocat.
Le problème de l'avocat, pour en avoir vu plaider, à défaut d'avoir plaidé moi-même, c'est ce que j'appelle le vertige de la langue. C'est, tout d'un coup, le silence se fait et c'est à vous. Et au moment où on développe son argument, au moment où on fait résonner ses périodes dans ce prétoire, quel que soit le cas qu'on défend, mais surtout au pénal, bien sûr, il ne faut jamais cesser d'avoir le contact avec le magistrat. Trop souvent, j'ai vu des confrères qui subitement décident de s'en payer une tranche. Et cette tranche, ils se la payent aux dépens de leurs clients. C'est-à-dire qu'ils sont là, lancés dans une belle période, ils font résonner les lambris de leurs verbes sonores, et tout d'un coup, le président en a assez. Il n'aime pas l'histoire qu'on lui raconte, parce que, d'abord, elle n'intéresse pas, il en entend des pareils tous les jours, tout le temps, il en a entendu 40 avant, il va en entendre 40 après. Et puis surtout, il ne comprend pas où on veut en venir. Et au fond, l'antithèse du vertige de la langue, c'est un peu le principe de raison. C'est l'idée que pour atteindre un résultat, il faut déployer un certain nombre de moyens, avec une certaine force, dans un certain ordre, et pas autrement. Et que quiconque se laisse aller au jeu du langage va desservir sa propre cause, et surtout celle de son client, parce que, bien qu'il y ait, à mon avis, une part d'artifice et une part d'art dans la plaidoirie et dans la façon dont l'avocat s'exprime, la plaidoirie, c'est avant tout quelque chose d'utilitaire. Et finalement, la première mission de l'avocat, c'est de défendre son client, et si l'on n'y parvient pas, on a raté son coup.
Ça fait plus de 25 ans que je suis avocat.
Hubert Ribeiro-Gaillon.
C'est un métier que je connais bien. Et surtout, une pratique très diverse, puisque j'ai plaidé plusieurs fois aux assises, j'ai fait pas mal de pénal, j'ai fait aussi du droit de la famille, du droit civil pur, enfin du droit médical, etc., avant de faire uniquement maintenant du droit social. Mais c'est cet ensemble d'expériences qui me permet de faire un ensemble de choses, quoi, enfin d'être à l'aise devant des juridictions très différentes. C'est un jeu, hein, l'audience. Chacun a son temps de parole, et dans son temps de parole, on est là pour convaincre. Les premiers mots ou les premières minutes vont être des minutes d'apaisement pour replacer l'affaire dans son contexte, etc. Mais on ne va pas développer d'arguments parce qu'ils ne sont pas audibles à ce moment-là. Et au bout de quelques minutes d'intervention, enfin, moi, je comprends que les visages changent, que la perception qu'ils avaient sur une intervention unilatérale commence à changer, parce que je leur dis, ben, c'est pas aussi simple que ça, la nuance n'a pas été donnée de la part de mon contradicteur, des éléments n'ont pas été volontairement donnés, et que je vais vous apporter, et qui vont vous amener à changer de position, etc. Et je regarde toujours physiquement comment ils sont. S'ils sont crispés jusqu'au bout, c'est pas bon signe. Mais en général, au bout d'un moment, il y a un relâchement du corps des personnes à qui je parle. Parfois même, ils arrêtent de noter. Et lorsqu'ils se mettent en arrière sur leur siège et qu'ils sont en situation de relâchement, je me dis, ça y est, les arguments sont passés et je pense pouvoir gagner le morceau, comme on dit. C'est un travail, moi je trouve ça passionnant, mais qui est un travail beaucoup plus large qu'un simple travail intellectuel. Je veux dire par là qu'il y a un petit peu de psychologie, il y a un petit peu de théâtre ou théâtralité, il y a la maîtrise de la voix, enfin il y a beaucoup de choses, plus des arguments évidemment de fond, de réflexion, qui ensemble permettent de passer d'une vision qui est donnée par l'un à une vision qui est donnée par l'autre et qui parfois évidemment est totalement contraire.
Alexandra Redeker, vous êtes responsable du master MEF, métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation pour les sections sciences économiques et sociales à l'Université Paris-10-Nanterre. Aujourd'hui, lundi 20 juin, nous sommes un jour d'oro blanc pour ces étudiants qui ont été admissibles aux épreuves écrites du CAPES. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Aujourd'hui, c'est le dernier jour de préparation aux oraux. Nous constituons donc la formation de différentes manières. L'objectif est donc principalement de les mettre en activité, puisque évidemment la prise de parole en public est quelque chose qui n'est pas pratiqué à l'université de manière générale. C'est des étudiants qui interviennent très peu à l'oral, qui n'ont pas du tout de pratique parfois, et qui peuvent se retrouver complètement déstabilisés face au jury, face au public.
Cette capacité à improviser,
est fortement inégale entre donc, des étudiants qui ont pu, dans leur formation ou dans leur milieu social d'origine, bénéficier de la possibilité de prendre parole, c'est-à-dire qu'on donne la parole à l'enfant qui et on le pousse à prendre cette parole-là, et d'autres étudiants qui, à l'inverse, sont bien moins à l'aise avec l'improvisation. Finalement, on le voit bien, hein, qu'ils ne sollicitent pas leur oral dans leur vie courante, pour qui, du coup, c'est un exercice complètement éloigné de ce qu'ils sont. Ce qui peut évidemment créer des difficultés forcément à prendre la parole.
C'est alambiqué, c'est compliqué, c'est pas précis, c'est pas direct. Là, on est, je vous le rappelle, en train de passer un oral. Vous devez être le plus explicite possible, qu'on comprenne exactement ce que vous avez. Ensuite, sur la manière générale, hein, à l'oral, je pense qu'il faut que vous soyez plus présent. Alors, vous êtes là, hein, vous êtes en train de nous expliquer quelque chose de manière très posée, mais non dynamique. On a beaucoup de qui peuvent être évidemment limités, notamment en fermant la bouche. Donc là, c'est bête, hein, mais il suffit de serrer les dents du fond. On serre les molaires, comme ça ne sort pas. Et je pense qu'il faut être plus présent dans la parole, dans la manière de parler. Arrêtez-vous, faites-nous un cours et montrez-nous la manière dont vous allez faire adhérer vos élèves à vos cours. Et si vous êtes debout, vous êtes forcément plus présent. Quand on est debout, le stress est dans les jambes, ça se voit moins. Pourquoi ? Parce qu'on a une vraie assise sur les pieds. Et donc du coup, on répartit le stress sur le corps, quoi.
On fait des câlins, genre.
On va avoir toute une formation qui s'avère être la capacité à prendre parole, à prendre une posture, à finalement être un futur prof, quoi, se mettre dans l'habit, j'ai envie de dire, et arriver à faire passer aussi quelque chose. Expliciter des choses.
Enfin, nous, ce qu'on a vu aussi beaucoup, c'est que là, concernant les élèves, faut sortir de l'implicite, quoi, parce que la réussite scolaire, elle se fait là-dessus. Les fils et les filles de cadres sup qui sont complètement favorisés parce qu'ils comprennent, ils abordent des débats qu'ils ont déjà abordés à la maison ou enfin par le biais familial. Et nous, c'est justement comment on essaie de remettre, permettre à chacun de comprendre des phénomènes sociaux complexes, mais donner l'opportunité à chacun de comprendre ça. Et ça, il y a plein de profs qui oublient beaucoup ça, quoi, et qui sont, ils ont eu leur diplôme, et bon, voilà, c'est bon, tout le monde va comprendre. De toute façon, ils vont voir les bouquins, ils vont comprendre tout seul, quoi. Là, paradoxalement, on avait du mal à revenir aux bases, on s'en aperçoit dans les oraux, à expliquer les choses simples, on s'aperçoit qu'on a des difficultés là-dessus. Et c'est vrai que c'est un entraînement quotidien, mais en tout cas, enfin, je pense il y a beaucoup de gens qui l'oublient quand ils sont en poste. Et parce que bon, c'est la facilité, hein, de faire des cours à ceux qui comprennent déjà.
Tu penses que tu peux descendre plus bas ?
Pas.
Comment tu vas faire pour descendre plus bas ? Tu te projettes ? Tu penses à l'avenir ? Tu crois que tu vas y arriver ? Que tu vas réussir ta vie ? T'as vu tes notes ?
Je...
Tu as quelque chose à dire ?
Oui.
Tu n'as rien à dire ?
Si. Si,
tu n'as rien à dire, c'est ça le problème. Moi, je prends un moment pour parler avec toi, mais au fond, ça m'est égal. Moi, j'y suis passée à l'école, moi, je l'ai, mon bac, moi, je les ai faites, mes études, moi, je la maîtrise, la langue, c'est derrière moi, tout ça. Si je prends un moment pour parler avec toi, pour t'entendre, c'est pour essayer de te faire comprendre.
J'ai toujours été pipelette... petite. On m'appelait la radio d'ailleurs, et donc beaucoup, un moulin à parole de toute façon, donc m'exprimer en public, ça n'a jamais été un gros souci, sauf dans certains cas bien entendu où le stress prend le dessus, ou la fatigue. J'ai eu la chance d'être dans une famille où on parlait énormément, donc avec une mère qui m'a toujours encouragée à prendre la parole, à prendre des initiatives, à aller au bout de ce que je voulais faire, et qui ne m'a jamais bridée dans mes projets ou dans ma façon d'être et ma façon de faire. Donc je pense que oui, avoir un cadre familial et affectif qui encourage ce genre de choses, ça aide à l'âge adulte à devenir des personnes qui sont plutôt à l'aise et qui disent haut et fort ce qu'ils ont envie de dire. C'est parfois un défaut aussi qu'on peut avoir... De trop vouloir s'exprimer, il faut apprendre des fois à se taire. J'ai été aussi conseillère principale, conseillère départementale jeune quand j'étais petite. Donc la prise de parole devant des personnes, ça a toujours été un peu là, quoi.
Vous étiez collégienne ou lycéenne, peut-être collégienne même.
J'avais entre 12 et 13 ans, il me semble, et j'étais conseillère départementale jeune de la commission Nord de La Réunion. Donc il a fallu un peu manager les troupes et ça se traduisait à des réunions entre nous et puis avec tous les conseillers départementaux de La Réunion dans un grand hémicycle avec la présidente du conseil général qui était là. Donc il y avait aussi des projets à mener à bien et s'exprimer et faire adopter un projet qu'on a porté et qu'on a monté, convaincre les gens que ben voilà, il faut le faire et en quoi il est nécessaire de mener ce projet-là. Donc peut-être que ça m'a formé aussi d'un côté apprendre à être à l'aise dans ma prise de parole en face de personnes.
Est-ce que vous vous souvenez de comment s'était passé ce premier concours d'éloquence, concours qui est organisé par le Mémorial de Caen, François?
C'est un très bon souvenir, parce que finalement c'est un concours que j'ai beaucoup préparé. Je m'y suis pris peut-être quasiment un an à l'avance, où je me suis intéressé au concours d'abord, j'ai regardé des vidéos. Je me suis intéressé au sujet, parce que c'est un concours qui permet de défendre ou de traiter un cas de violation des droits de l'homme. Donc c'est un concours particulier sur son thème. Et moi, je voulais absolument traiter un sujet en lien avec le droit du travail, donc ma discipline. Donc c'est pour ça que ça m'a pris déjà presque 6 mois pour trouver un bon article, pour rassembler des dizaines d'articles, construire une histoire, trouver un personnage parmi tous ces articles, parce qu'il y avait énormément d'individus qui étaient victimes du travail forcé, de la traite et de l'esclavage. Et j'ai eu la chance d'être désigné par l'École du Barreau de Paris comme son représentant pour la finale nationale qui avait lieu à Caen en janvier 2016. Et entre la sélection parisienne et la finale à Caen, j'ai vraiment eu l'occasion de travailler sur la prestation orale, plus que le fond qui était déjà établi. Et donc, pour moi, ça a été un formidable travail presque théâtral. Essayer de rendre ça vivant, essayer de rendre ça le plus efficace possible en 10 minutes, sans être trop rapide, sans survoler le sujet qui est énorme. Dois-je montrer que l'esclavage est mal ? S'agit-il d'un débat qu'il faut trancher par les règles de la logique ? Et de l'argumentation. Faut-il que j'argumente qu'il est mal de transformer les hommes en brutes, de leur voler leur liberté, de lacérer leur chair avec des fouets, d'alourdir leurs membres avec des chaînes, de les vendre aux enchères, de les affamer pour qu'ils obéissent et restent soumis à leur maître? Non. Je refuse. Il faut exposer l'hypocrisie de la nation. Ces mots, prononcés en 1852, sont ceux de Frédéric Douglass, un esclave américain affranchi. Avons-nous réellement progressé en 160 ans? Actuellement, les Nations Unies estiment que 250 millions d'êtres humains dans le monde vivent en situation d'esclavage. Chacun d'entre nous comprend que c'est notre échec et qu'il est insupportable. Mesdames, messieurs, le travail forcé, la traite des êtres humains et l'esclavage n'appartiennent pas au passé. Ce sont des pratiques établies de notre présent. Les laisserons-nous souiller notre avenir ? Je me souviens encore du moment où il faut monter sur l'estrade à Caen pour prendre la parole devant ces 700 ou 800 personnes. Des applaudissements de politesse, au début en tout cas, qui se tarissent petit à petit, le silence qui se fait. Et là, on se dit, je vais prendre la parole. Est-ce que ma voix va répondre? Ou est-ce que je vais chevrotter? Est-ce que ma respiration va être saccadée? Bon, il se trouve que dans l'élan, j'ai, avec le bras, fait tomber mes feuilles. Et ça a été, je ne l'ai pas remarqué tout de suite, je l'ai remarqué quelques secondes plus tard, et ça a été une source de stress tout d'un coup. Je me disais, avec la fatigue et l'angoisse, Je ne savais pas quelle était la phrase qui venait après celle que j'étais en train de prononcer. Et je me disais, mais rassure-toi, tu as ton texte. Et en baissant les yeux pour voir mes feuilles, j'ai vu que mes feuilles n'étaient pas dans l'ordre et qu'il y en a une qui était tombée par terre. Donc je me suis dit, il y a deux solutions. Soit j'arrête, je remets mes feuilles en place, je me baisse pour ramasser celle qui est tombée et c'est une catastrophe. Soit je me fais confiance et j'y vais et au pire, c'est une catastrophe. Donc entre deux catastrophes possibles, j'ai choisi la moins visible. Et bon, bah c'est passé.
Pour se mettre en condition, pour entrer dans le conte, puisqu'en fait c'est toujours un petit peu difficile hein, devant un public, on se dit bon, les personnes sont là, sont en train d'attendre un conte, les gens qui ne racontent pas d'histoire ou qui n'enseignent pas ou qui n'ont pas cette expérience de la prise de parole en public pensent souvent que c'est quelque chose d'assez facile et d'assez anodin. Et donc d'une certaine manière, on n'a pas envie de les décevoir et de montrer un petit peu trop les difficultés de cette situation. Donc il faut vraiment se mettre en condition. Et une des façons de le faire, c'est de dire cette formule préliminaire. Le fait même de dire cette formule permet de finalement se lancer, en fait. C'est le moment où on décide, voilà, j'y vais. Et il me faut ce petit passage-là. Ce petit passage qui, dans les contes kabyles, consiste en quatre petits vers, parfois plus, parfois moins. Mecheho, windineneho, temecheho tiwetelho, etsefarashtusero. Donc c'est Mecheho, le conte, que mon conte soit beau. Mecheho, celui qui dit aho, que mon conte soit beau, qu'il sorte comme un ruban. Comme un ruban de soie.
On nous dit souvent qu'il faut apprendre la première ou les premières phrases de notre plaidoirie par cœur pour ne pas se poser de questions en rentrant dedans et apprendre de la même manière les dernières ou la dernière phrase de conclusion pour être le plus frappant possible et pour que le conseil se souvienne vraiment de nos derniers mots. Ce sont les plus importants d'ailleurs. Et donc en droit, oui, c'est un peu comme quand on raconte une histoire, il y a aussi ce genre de rituel. Et puis peut-être que ça se matérialise par les faits. Dans un dossier, quand on commence à plaider, on commence toujours par les faits en général. On raconte l'histoire, ça boucle. Mais on commence par raconter, voilà, ça s'est passé à telle date, tels sont les personnages ou les intervenants... Voilà le problème, le nœud du problème, et voilà comment je vous propose d'amener la solution. Donc finalement, c'est très borné. Enfin, en tout cas, c'est un modèle un peu antique qu'on reprend avec ces grandes périodes. Et on ne fait que l'appliquer aujourd'hui. C'est une recette qui marche depuis des centaines d'années, voire des millénaires.
Il y a aussi... moi, c'est une phrase qui me fait un petit peu peur. C'est la toute première phrase, les tout premiers mots qu'on dit quand on arrive devant le conseil pour plaider... C'est Madame le Président ou Monsieur le Président, Messieurs, Mesdames du Conseil, ou alors Messieurs du Conseil, Mesdames du Conseil. Ces quelques mots du début de plaidoirie sont, je pense, très importants. Parce que déjà, quand un avocat se trompe et dit Monsieur le Président, alors que c'est Madame le Président, ou dit Mesdames du Conseil ou Messieurs du Conseil, alors qu'en fait, c'est l'inverse, déjà, je pense que le Conseil aura peut-être un a priori un peu négatif en disant c'est qui se guignole. Et ça, je trouve que c'est assez stressant. Et je pense qu'avant de plaider, ça sera une chose à laquelle je penserai beaucoup. Et je me demande même si je ne vais pas l'écrire pour ne pas faire d'erreur là-dessus.
Si on se plante sur les premiers mots, on se prend les pieds dans le tapis, on est déconcentré pour tout le reste. C'est la phrase peut-être la plus stressante à prononcer. Tout comme la phrase qui vient juste avant, qui vient en général du président, qui dit « Maître, vous avez la parole ». Et là... Il y a une éternité qui se passe entre cette phrase et le moment où on va ouvrir la bouche, respirer, ouvrir la bouche pour prononcer les premiers mots. Ça paraît bête, mais à mon avis, c'est là que le stress est le plus fort.
Est-ce que vous avez des références en la matière, François ?
Le problème avec les plaidoiries, c'est que c'est pas public. Enfin, c'est pas enregistré. C'est public, on peut y aller, mais c'est pas enregistré. Sauf à de très rares exceptions pour des procès qui ont un intérêt historique. Le procès, il me semble, du maréchal Pétain avait été enregistré. Le procès de Klaus Barbie, par exemple. Enfin, voilà, c'est quelques procès historiques. Moi, j'ai le son de la voix des avocats, donc Jacques Izorni pour le maréchal Pétain, Maître Vergès pour Klaus Barbie, mais à chaque fois, ce sont des plaidoiries extraordinaires parce qu'elles sont très théâtrales, elles sont à la limite vraiment de l'exercice, c'est un aboutissement de toute une carrière, et ça reflète pas la normalité de la plaidoirie pour nous, petits avocats ou jeunes avocats en droit social. Donc c'est très difficile de se faire une idée, et la seule façon finalement d'approcher les plaidoiries, c'est de les lire. Et ça déforme. Ça déforme parce qu'on est son propre conteur. Et donc non, c'est difficile d'avoir des modèles, en tout cas, c'est toujours un petit peu biaisé.
16h cet après-midi à l'Assemblée, il porte un costume de ville, mais il pourrait aussi bien avoir sa robe d'avocat. Le garde des Sceaux, Robert Badinter, prononce son ultime plaidoirie contre la guillotine.
Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus, pour notre honte commune, des exécutions furtives à l'aube sous le dais noir dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. À cet instant, j'ai le sentiment d'assumer, au sens ancien, au sens noble, le plus noble qui soit, le mot de ministère, c'est le service. J'ai le sentiment de l'assumer. Demain, c'est l'abolition, législateur français. De tout mon cœur, je vous remercie.
Le plus important est d'avoir son style et d'être à l'aise. Il faut tenir son rôle avec sa personnalité. On ne peut pas forcer le trait. Et on ne peut pas forcer le trait, à mon sens, encore plus lorsqu'on est en public. Il faut vraiment être naturel. Et ça suppose bien se connaître.
Je pense qu'actuellement, on est incapable de dire quel est notre style, ou on a peut-être des intuitions, mais ça va venir. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, vous avez dit quelque chose de très intéressant. C'est je regarde les visages des membres du Conseil, du Président, pour voir s'ils sont réceptifs ou pas à mes arguments, voir comment ils reçoivent les arguments adverses. Et ça, c'est peut-être la chose la plus difficile, finalement, se détacher de sa propre plaidoirie pour regarder les autres et s'adapter en direct.
Alors moi, si j'avais un conseil à donner à un jeune, c'est d'aller plaider le plus souvent possible. Donc ça, il faut faire les permanences pénales, il faut aller faire du petit pénal, des commissions d'office, etc. Moi, quand j'étais plus jeune, il m'est arrivé d'être appelé à 9h du matin par le bâtonnier. Donc je suis arrivé, l'audience était commencée, et puis à 14h, je plaidais. Évidemment, je ne dis pas que c'est une très belle plaidoirie, mais il y a de quoi tenir et remplir son rôle.
Alors, je ne connais pas le métier d'avocat et la façon dont on construit une plaidoirie, mais je pense que oui, dans le cadre du métier d'avocat, la plaidoirie et le poids des mots est très important. En tout cas, en ce qui me concerne et dans la façon dont j'imagine les premiers mots avec les élèves, ce n'est pas forcément la nature des mots, mais l'intonation et le comportement que je vais prendre et que va prendre ma voix aussi. Les premiers mots que je prononcerai, ce serait voilà, j'arrive, je suis là pour vous transmettre des choses et pour essayer du mieux que je peux de vous faire progresser et d'atteindre un but, peut-être le baccalauréat, peut-être un TPE ou une orientation.
Ça serait quoi votre pire cauchemar qui pourrait vous arriver en classe? Est-ce que vous y pensez des fois?
Mon pire cauchemar en classe? Qu'on peut imaginer un élève en échec, qu'on n'arrive pas à raccrocher au système scolaire, des connaissances qu'on n'arrive pas à transmettre, le conflit aussi entre les élèves eux-mêmes et à notre égard, faire respecter le règlement, ne pas y arriver. Je pense que ce sont un peu les peurs de l'enseignant. Après, je ne suis pas encore dans le métier, donc je ne peux pas forcément parler de ça, mais je pense qu'échouer à sa mission et ne pas parvenir à transmettre les valeurs républicaines et les contenus, oui, ce serait le pire cauchemar de l'exercice du métier d'enseignant.
Bonjour à tous.
Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui s'intitule « Pourquoi proteste-t-on ?». Alors depuis février 2016, la France connaît une vague de mouvements sociaux qui réunit des millions de citoyens et d'individus qui protestent contre la loi travail. Différentes actions s'organisent dans tout le pays, grèves, manifestations, sitting et occupation de la place publique, comme avec le mouvement que nous connaissons Nuit Debout, qui s'est mis en place donc au départ à République, puis dans différentes villes à partir de la fin du mois de mars. Se poser la question du pourquoi protestons-nous, c'est s'interroger sur les déterminants, sur les objectifs, les fins et les fins des protestations. Et enfin, se poser la question de pourquoi proteste-t-on amène à la question du pouvoir et de la
culture. Je réfléchis en me disant, je suis leur référence là, maintenant, et je veux pas trahir ça. Peut-être que c'est ça que je me dis à ce moment-là, qui me pousse à du coup me surpasser un peu et être avoir ces anses-là nécessaires.
Talia de Naples.
Alors que finalement, pour un concours. C'est paradoxal, mais là, c'est pour moi. L'enjeu, c'est moi. Et du coup, c'est moins... Enfin, c'est... Oui, il faut aussi peut-être un peu égoïste et se dire, bon, bah, je monte pas et face à mon jury. Et c'est des preuves dures à faire, finalement. Je trouve que c'est plus facile, là, face aux élèves, de se dire, on est l'adulte référent. Alors que quand on est responsable de soi-même, on n'arrive pas forcément à s'autoconvaincre des choses. Quoi. Je sais pas, peut-être... Peut-être c'est ça. Emma esquite qui te chie la technique dans le
style hôtel. Il y a du culo, je t'explique, ouais. Je m'exile et j'ai des... Moi, par exemple, avant, j'écrivais dans mon coin. Et c'est un copain qui m'a dit, moi aussi, je suis poète, viens à un slam, tu vas voir ce que c'est. Et j'avais extrêmement peur, justement, de la prise de parole. Mais après, on voit que c'est, on est dans le don. Donc les autres vous donnent quelque chose. Et vous donner quelque chose, et du coup, c'est chouette.
Otto Chronopio, slameur et enseignant.
Il faut s'habituer à cette posture, c'est pas une posture naturelle d'être là et être en train de balancer nos quatre vérités au monde comme ça. Donc oui, c'est, quand je dis conquérir, c'est ça. C'est d'essayer de laisser un peu de côté la superficie et rentrer dans la profondeur. Avec mes élèves, c'est différent. On a notre statut de prof, bon, qui est très dégradé quand même. Hein. Faut pas dire maintenant. Maintenant, on a Wikipédia, donc on sait tout et voilà. Donc on sert de plus en plus à rien. Mais il y a quand même ce statut-là, et donc on est dans une quand même relation verticale. Donc nous, on a le savoir, on a quelque chose à transmettre, et eux, ils doivent le recevoir, qu'ils le veuillent ou non, d'ailleurs. Hein. C'est pas du tout la même chose, mais ça arrive que les élèves sont très curieux, donc ça leur arrive de poser des questions très personnelles et d'avoir des moments avec eux authentiques, que j'appellerais authentiques. On n'est plus dans le rôle machin, et parce qu'on vit des choses, par exemple pour les attentats, d'avoir à gérer l'angoisse des élèves qui est palpable. Il y a des élèves, pour Charlie, il y en avait aussi des choses... genre c'est bien fait pour leur gueule, pourquoi est-ce qu'ils se moquent du prophète, moi j'aurais fait pareil, enfin, et on se retrouve là à des moments où oui, on donne plus de soi que ce que le ministère nous dit de faire, mais on est obligé parce que c'est des situations humaines, quoi.
Il y a des exigences de contenu à transmettre, il n'y a pas tant d'exigences que ça sur la manière dont on les transmet. Il y a une certaine largesse possible. Et ça, c'est un truc que qui m'a paru assez important de pouvoir dire que je pouvais aussi faire les choses dans une certaine mesure à ma manière aussi, quoi. Et aussi avoir un rapport un peu plus, apaisé avec la hiérarchie. Et c'est ce qui m'a manqué. J'ai eu que des expériences de boulot peu exaltantes, mais c'était des boulots d'exécution où on demande de faire ça. On me demande de faire ci, et voilà. J'avais envie de faire quelque chose qui puisse m'amuser et que je puisse faire avec voilà, ma manière de faire, quoi, d'une certaine manière.
Mais vous êtes des futurs fonctionnaires. Vous savez ce que c'est que la neutralité de la fonction publique ? Je te pose une question sur l'armarin Croana, il n'y a rien qui empêche le jury de vous le faire. Vous ne pouvez pas rigoler à ce moment-là. Il n'y a rien de drôle à traiter de l'armarin Croana. Donc faites attention. Imaginez vos élèves qui abordent ce sujet-là en classe, vous allez vous mettre à pouffer de rire comme eux. Ben non, vous avez une maturité, une aisance, qui fait que quand on aborde la marijuana, vous pensez à Outsiders, vous pensez à Baker, vous pensez à la construction des politiques publiques, et vous évoquez, vous donnez du coup un avis parfaitement objectif sur un problème. Du coup, quand moi je te demande, et alors vous êtes pour ou contre la marijuana ? Ce que j'attends là, c'est que tu dises que c'est un phénomène social qui prend de l'ampleur, notamment chez les jeunes, que tu fais du droit comparé, ça, c'est, à ce moment-là, c'est bien. Mais au bout, ta réponse, c'est, ben, c'est un phénomène social qui demande un traitement public et peut-être un projet politique, mais pour le moment, non abouti. En France, en tout cas. Surtout, ne donnez pas votre avis là-dessus. Il y en aura plein des questions cette année, des questions comme ça. Et alors, la loi El Khomri, vous êtes pour ou contre ? Alors, on n'attend surtout pas une réponse pour ou contre. Qu'est-ce qu'on vous demandera d'autre ? Et sinon, il y a les migrants, c'est un danger hein, pour la France. Hein. Évidemment, là, on n'attend pas une réponse ni positive ni négative. On attend juste une analyse. Fais attention, Gaspard, sur la forme aussi, à ne pas craquer des doigts devant le jury. Ça, ça te sera reproché. De la même manière que les gamins ne bouffent pas de chewing-gum en classe. D'accord ? Le prochain qui dit mon ou ma...
Je l'ai pas dit.
Je les tripe, tu l'as dit. Devant témoin. Alors, sur le premier graphique, ça a été. Et puis sur le deuxième, c'est donc mon offre, ma demande de travail, mon offre de travail. Voilà. Mon marché du travail même. Voilà. Tocqueville ne sort pas, il publie. Ensuite, dans les fautes de langage, on a toujours le « e »,« ba ». Alors, ton « ba », en plus, il est c'est pas un « ba », c'est un « bain », qui est extrêmement fâcheux. « Bain ». Je vous rappelle que vous êtes censé, dans 2 mois, dire aux élèves « on dit pas « ba », on dit pas « bain », on commence par une réponse par « un ». Et le « oui » aussi, tu l'utilises.
Oui, mais je m'excuse. À la personne.
Oui,
mais... Non, mais je sais, mais c'est dur. Ni oui, ni non.
Vous n'avez pas le droit d'utiliser ni oui, ni non. C'est tout. C'est un jeu. C'est un jeu auquel on joue quand on a 3 ans ou 4 ans.
Oui, mais je parle.
Alors, continue. Le prochain qui me dit oui ou non, il fait un gâteau.
Grande différence entre parler et branavasser. Grande différence entre parler et bravassader. Brasse. Grande différence entre parler et bardavasser, barsavader,
bavardasser.
Grande différence entre parler et bravadrasser, Grande différence entre parler et bravadrasser,
C'était Oser prendre la parole. Enseignant ou avocat, demain, je prendrai la parole pour la première fois. Par Céline Leclerc, réalisation Anna Smuk. Avec Frédéric Hurtel et François Bourguignon, Hubert Ribeiro-Gaillon, Maëva Barthès et Gaspard Cépède, Alexandra Redeker, Otto Chronopio, Amina Metouchi et Jean-Michel Vivès. Merci à Laurent Gamet et Frédéric Carluer, à Talia et à Pierre, ainsi qu'à Mina Afezi pour son aide précieuse. Prise de son, Gaël Braouezek et Laurent César. Mixage, Delphine Baudet. Archivina, Manuela Dubessy et Annie Lozana. Lecture de la pièce, Arrête, je vois la parole qui circule dans tes yeux, par Capucine Baroni et Théa Marcadet, dans une mise en scène de Claire Lapère-Mazera. La série documentaire, coordination Perrine Kervran, attachée de production, Marie-Vonne Abolivier.
LSD, la série documentaire On se tait pour aujourd'hui, c'est chuchoté par Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, et si vous voulez en parler, bibliographie, lien, et puis nous podcaster pour les coulisses, ou nous réécouter avant de vous lancer, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook et nous suivre sur Twitter. Demain, deuxième étape dans l'arène politique, à la tribune, je monterai.